dans le même périmètre, mais qui disent qu'il y a aussi cette question de comment est-ce qu'on redonne de la place à des activités économiques déjà en place, qui ne sont pas forcément extrêmement vaillantes, mais qui sont utiles et présentes. Donc, ce qu'il expliquait, après ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça faisait aussi partie d'une forme de stratégie de concertation que de prendre les activités existantes telles qu'elles existent, telles qu'elles sont là, et de les aider à passer à un autre type de local.
Alors, ça, c'est la politique qu'on mène depuis l'origine. Donc, à partir du moment où on intervient sur les secteurs urbains, personne ne peut dire que ce sont des secteurs de rien. Il y a toujours quelque chose. Et en général, c'est une économie de subsistance, souvent précaire, souvent exercée dans des conditions à la limite de la légalité, mais au moins qui ont l'avantage de continuer à assurer une forme d'insertion sociale des habitants en plusieurs endroits. Je crois que c'est indispensable. La question qui est posée, effectivement, c'est comment accompagner ces entreprises dans le sens de la modernité sans les fragiliser dans leur montage, dans leur activité économique. Et c'est pour ça qu'on a notamment, par exemple, sur, sur les consultations les plus récentes, imposé dans les rez-de-chaussée, alors un arsenal visant à la souplesse l'adaptation des locaux par rapport à une petite activité, à la réversibilité de leur aménagement, à la possibilité d'avoir des locaux mixtes, etc., etc. Donc ça, c'est sur la superstructure, on va dire. Mais sur le montage, on impose au moins 20% des surfaces de rez-de-chaussée à des loyers de moins de 110 euros de l'hectare. 110 euros, c'est ce qu'on a pu constater à travers tout un tas d'études conduite dans le secteur, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve de façon nationale, pareil au national, qui soit un loyer compatible avec de l'associatif du commerce de proximité relativement ordinaire. Et ça permet déjà d'encadrer une part de l'implantation d'activités existantes, préexistantes sur le site. Alors après, il faut aussi les accompagner, ces activités, pour qu'elles puissent monter un peu en qualité, au moins résoudre un certain nombre de situations qui sont parlement à la limite de la réglementation, je vous le disais. On a ici notamment beaucoup de réparateurs auto. Je ne parle pas des pièces tombées du camion, je dis simplement que la vidange, je vais souvent sur le trottoir. Bon, la vidange sur le trottoir, c'est sympa, mais quand on est cocité, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on accompagne les entreprises à une amélioration significative, tout en proposant des solutions acceptables.
Mais dans un pilote comme le projet Alar, il y a ce type de.
Alors justement, j'allais y venir par position. Effectivement, nous on a une application d'aide, en fait, qu'on peut amener à cette issue qui existe mais qui vivote. Alors, on a parlé de la conciergerie tout à l'heure. En fait, on arrive dans un contexte éminemment industriel, peu de liens économiques. Et donc, grâce à la conciergerie, on va essayer de réinstaurer ce lien économique en fait en faisant des partenariats avec ces petits commerçants qui ont une petite activité, en leur proposant, à travers en fait, des services de la conciergerie, de travailler avec nous. Type, parler peut-être un peu basiquement des réparateurs de voitures, sa structure le permet, ce réparateur-là, ce garagiste-là, qui est juste à côté dans la rue de Lyon, qu'on va privilégier pour changer une roue, pour changer un pneu, pour faire une réparation automobile de quelqu'un qui travaillait dans les bureaux, dans Marseille, dans la
Lyon.
C'est une mise en réseau pour redévelopper l'économie locale du quartier.
Ça peut pas suffire. C'est une des actions qu'on essaye de mettre en place. Comme toujours, quand on fera un renouvellement urbain, c'est long, c'est peu visible. Il y a beaucoup de déchets, on va dire, au sens. Beaucoup de ratages. Mais bon, pour autant que ce démontre. On est questions-là, et puis...
Allez-y. Mais non, mais allez-y. C'est juste pour surveiller.
Non, mais juste sur les questions des usages, parce que je voulais poser trois questions très précises sur, d'abord, la conciergerie. La conciergerie, elle est portée par le promoteur de façon à être gratuite pendant un certain nombre d'années pour les habitants du quartier, parce que c'est lui qui met l'investissement et à un moment donné, ce n'est pas répercuté dans les charges des locataires ou dans les charges de copropriété pendant une... Parce que les conciergeries se sont faites dans un certain nombre de villes. Et quel est le modèle économique de la conciergerie du démonstrateur à l'art? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'était sur les parkings, parce que vous avez parlé effectivement des droits d'usage. Mais j'ai vu la mixité des bailleurs sociaux et des associations syndicales, comme vous les avez appelées, comment vous faites concrètement pour garantir le remplissage des parkings? Parce que les stratégies d'évitement des locataires sociaux, on constate qu'il y a 40% de places, enfin, dans un certain nombre d'opérations nouvelles, qui ne sont pas utilisées. Et avec ce changement de paradigme du droit d'usage, est-ce que vous avez une garantie de remplissage un peu supérieure par rapport à ce que vous avez pu constater? Donc ça, c'est sur le modèle. Sur la mixité bureau-logement, est-ce que il y a déjà un travail de fléchage de droits de priorité, entre guillemets, vivre et travailler dans l'îlot, peut-être plus que vivre et travailler au pays? Est-ce que les entreprises ou les bureaux qui s'installeront auront, entre guillemets, un droit de priorité dans l'accession à la propriété ou même dans le locatif? Est-ce que c'est un mécanisme qui a été pensé à l'échelle de l'îlot?
Ne répondez pas tout de suite, on va prendre une ou deux autres questions.
Ah, moi, c'était aussi une question de modèle économique, mais qui est plus liée à la boucle d'eau de mer. Est-ce qu'on sait évaluer le surcoût de cet équipement imposé, si je puis dire, pour l'îlot, et qui le supporte dans les programmes du CIRET, ce qu'on appelle les coûts non récurrents, qui est-ce qui va financer ça, et qui est-ce qui va le financer au départ et à terme?
Moi, je peux répondre aux trois premières, en fait, je la dernière. Alors, la première question, donc, c'était la question de qui supporte les charges de la conciergerie, comment. Avec toutes vos questions, j'aurais pu m'en rencontrer demain matin. Mais c'est pas grave. Non, mais en fait, tous les ayants droit, les habitants et les salariés de SmartSale peuvent venir consulter et gratuitement venir profiter des services sur un modèle en fait où on a réparti les charges. En fait, c'est les bureaux qui payent deux fois plus que les logements. En fait, on ne peut pas supporter entièrement, à part égale, les logements et les bureaux. Ça, c'est une première chose. La conciergerie aussi, elle est à destination des bureaux et des logements, donc vous l'avez compris.
Elle n'est pas gratuite.
Elle est mutualisée.
Elle est dans les charges, elle est mutualisée, et c'est grâce à cette mutualisation et cette mixité de programme qu'on peut aussi moins faire supporter au logement et un petit peu plus au bureau pour aider les logements.
Au coupon comme au bailleur.
Oui, exactement. C'est le même modèle. Alors, du coup, il y avait la question du parking. Alors, effectivement, on commençait à parler de l'exemple de remplissage pour les logements sociaux. Alors, effectivement, nous aussi, on a la même chose ici. Les bailleurs, par exemple, nous ont demandé moins de droits que de logements.
Parce qu'ils constatent qu'il y a une stratégie d'évitement.
Exactement. En fait, moins sans payer. Nous, on ne va pas aller contre ça. Donc, ils se payent moins de droits de logement, c'est normal. Et ensuite, le fonctionnement de la répartition des droits, c'est un droit par logement. Et ensuite, c'est un certain nombre de droits pour les bureaux en fonction de la jauge qui reste en fait à remplir pour le parking. L'avantage de ce parking-là, c'est que du coup, on va mutualiser les droits. Une place peut être utilisée par deux personnes, forcément, à deux moments différents de la journée. Il y a deux types de clients, les ayants droit, qui sont soit les personnes qui habitent sur l'art, soit les salariés des entreprises. La deuxième partie, c'est les abonnés complémentaires, type un client d'un bureau ou quelqu'un de votre famille que vous avez invité pour un goûter d'anniversaire.
Oui, mais ma question, c'est qu'est-ce qui garantit qu'il y a moins de voitures dans l'espace public et qu'il y en ait plus dans les souterrains avec cette mesure?
Ah oui,
il n'y a pas de parking, sauf qu'il y a des usages.
C'est une garantie.
Il y a des usages et le locataire social qui ne veut pas prendre de place de parking pour payer 10 euros de moins sur sa facture de logement à la fin du mois, il met quand même sa voiture dans l'espace public. Donc,
c'est de la loi, parce qu'encore une fois, alors pour le coup, une des réflexions effectivement importantes, c'est de limiter le stationnement sur l'espace public.
Qu'est-ce que le droit d'usage permet de...
Après,
c'est moins cher.
Si vous êtes garé très loin pour avoir évidemment des 10 euros éventuels, ça le regarde. Mais encore une fois, on ne va pas encourager nous le stationnement sur l'espace public, parce qu'on estime que l'espace public doit être, pour des tas de raisons, planté, aménagé, mis à disposition des vélos, des piétons, etc. Et des livraisons, c'est aussi la question des livraisons qu'il faut savoir gérer. Voilà. Après, sur le stationnement, je pense que chacun est responsable.
Par exemple, sur l'espace public, on pourrait avoir un stationnement payant, alors que, avec, par exemple, chaque logement en a un droit, et ce droit-là, il est gratuit. Donc en fait, c'est moins cher, pour rebondir sur votre réflexion, c'est moins cher d'aller se garer dans ce parking mutualisé que sur l'espace public. La troisième question.
La troisième question, c'était est-ce que vous favorisez le rapprochement domicile-travail en donnant une...
Ah oui, ça c'est une question très fine.
Une priorité aux salariés.
Actuellement, non.
Ouais. Enfin, parler de DEF qui était en France, c'est ouais. Mais je parle aucun bilo.
Ça va être encouragé,
nous,
c'est vous qui voyez.
Ça serait de commercialiser, donc on n'est pas exclu que des gens de DEF aient décidé de s'installer.
Mais disons qu'il n'y a pas d'aide à l'achat. Il n'y a pas d'incitation.
Mais
par contre, on a fait énormément de pubs chez eux.
Mais en même temps, l'idée, c'est quand même de faire un morceau de ville, pas une communauté fermée avec des gens qui vivent et qui habitent là-dedans. Donc,
c'est pas la même chose de mettre plus de flyers au CE2DF que de ne pas en donner du tout au CE2DF.
Ah oui. Il ne s'agit pas d'en faire une cité EDF.
Sur la question de la boucle, le montage de la boucle a été fait sur un dispositif partenarial avec les collectivités locales qui ont, il y a l'ADEME, bien sûr, qui finance et subventionne la boucle. La boucle est une, comment dire, un bénéficiaire qui est simple, qui permet aussi, en termes d'achat d'énergie, pour le produit d'avoir une TVA et la boucle à taux réduit, donc ça c'est déjà un avantage en soi. Il n'y a pas de surcoût a priori reporté sur l'opérateur. C'est le risque qui est pris entièrement par les BFOS en l'occurrence, qui prend donc le risque du déploiement du réseau et avec une obligation d'avoir un prix d'énergie toujours inférieur au prix de l'énergie fossile, qui d'une certaine manière garantit aux partenaires financiers publics le meilleur coût. Pour les opérateurs, pour les habitants. Donc ça vaut sur le raccordement, et puis après il y a le prix de l'énergie. D'autres questions ?
Monter la génération de pôles récemment, tu disais qu'on était passé en 2009 d'une logique opérationnelle à l'IO à aujourd'hui, une logique opérationnelle. Plus ou moins pour vous, de savoir que c'était le déterminant un petit peu qui ont conduit justement de la croissance de la taille opérationnelle. Alors, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir quelles étaient les conséquences sur, si on avait, sur les formes urbaines, sur l'organisation et sur le développement durable de ces macros. Comment on perçoit le devenir de ces macros?
Plusieurs questions. Alors la première, sur l'évolution des, de notre approche, Macrolo, c'est pour faire parler d'IO. Macrolo, c'est un peu connoté. On pense tout de suite à Boulogne, avec les valises qu'on pose, machin, un truc tout tiré à l'équerre. Ici, on est quand même sur des dispositions qui ne sont pas uniquement d'abord formelles et compositions immobilières, mais vous l'avez vu, j'espère, avec un travail plus en profondeur sur la qualité de service, l'usage et autres. Ça, c'est un premier point. Donc c'est l'évolution qui nous a amené à changer d'échelle. C'est parce que les contraintes, en tout cas les implications liées notamment à l'avènement du développement durable, risquaient d'être encore plus fortes, dès lors qu'on visait une performance élevée. Il fallait quand même qu'on s'assure, encore une fois, que tout ça était réaliste. Continuer à avoir un niveau de développement initial quand même simple, première opération que je vous ai présentée, et augmenter, voire significativement, les contraintes et les exigences portées par l'opérateur, risquait de planter totalement le dispositif. Donc là aussi, on a augmenté progressivement la taille des opérations pour voir jusqu'où on savait, avec nos partenaires, négocier des péréquations entre coût de sortie, enfin, prix de sortie, performance générale et qualité d'accueil. C'est comme ça qu'on se calme. Alors là, on a fait un saut assez conséquent récemment, parce qu'en face de Bioalar, qui représente à peu près 1,5 hectare au sol pour 60 000 m² de construction, on passe, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, au développement d'un territoire de 14 hectares pour à peu près 250 000 m² avec un opérateur qui est Bouygues, enfin, c'est Bouygues Immobilier avec Mincity, qui est la branche construction pour la construction de Bouygues. Et là, on va tester justement le passage à cette super échelle d'IVO. Mais pourquoi on est passé à cette super échelle? Tout simplement parce qu'au cœur de cette IVO, qui est très dégradée, il y a le marché aux puces. Et que la question du marché aux puces est une question de dureté urbaine. Parce qu'il s'agit, pour ce marché qui est un marché alimentaire, qui rend des services de proximité à une grande part des quartiers nord de Marseille, en fournissant une denrée alimentaire à faible coût, présente des problématiques d'intégration urbaine en matière de stationnement, d'hygiène, de sécurité, etc., non résolues. Et le seul moyen d'aider le marché à résoudre ces questions-là, sans bouleverser l'économie générale, je dirais, des structures commerciales qui sont présentes, nécessite de l'intégrer dans une démarche permettant une péréquation encore plus grande, et donc trouver une meilleure adéquation entre les constructions qui vont arriver et l'économie du marché. Donc on change d'échelle pour éviter.
C'est la faisabilité en fait. Tout
à fait. Mais là c'est du test. Hein. Encore une fois, c'est on teste.
Quel est le rôle et la place des élus dans cette opération par rapport à vous, par rapport à la population? Quelles sont les lettres de mission qu'on vous donne à vous, et puis quels sont les rôles par rapport à vous?
Alors, les élus sont omniprésents, vu que notre gouvernance est assurée par l'État et les quatre collectivités locales. Dans notre conseil d'administration, on a 9 ministères. Et les quatre collectivités locales sont représentées, à savoir la région, le département, la métropole et la ville. Donc tous les élus, et ce sont les présidents.
C'est le meilleur moyen pour que vous gardiez le pouvoir.
Mais du coup, ça assure la pérennité. Ce qui est intéressant, c'est que si l'opération avait été portée par une seule institution, elle se plantait quasiment dès l'origine. Là, on a fait des novateurs. Je ne dis pas que ça a été tout a été rose, mais qu'il n'y a pas eu des moments où il y a eu des prises en main assez volontaristes de certains. Mais en l'occurrence, 20 ans après, les choses se sont nivelées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'approche des échéances électorales, chacun reprend ses billes en évoquant son leadership sur le projet. Bon. Ce qui est un signe de bonne santé, de totale appropriation, donc ça nous garantit la durabilité du projet. Donc les élus sont partout. Donc, pour le coup, on a 3 à 4 conseils d'administration par an. À l'occasion desquels tout est débattu. Les programmes d'aménagement, les engagements, les objectifs, la stratégie plus long terme, tout est débattu en conseil d'administration par les élus. Les conseils étant préparés avec les DGS au préalable et les ministères, donc les administrateurs d'État. Donc là, pour le coup, quand un conseil d'administration se tient, c'est conclusif, quoi. Donc la part des élus est totale. À Marseille, on a une disposition particulière qui est celle des mairies d'arrondissement. Donc chaque arrondissement a son maire, et donc pour le coup, nous on est à cheval sur 3 arrondissements différents. Donc on a 3 maires d'arrondissement potentiels, et on s'arrange, parce que ces 3 maires sont également membres d'institutions départementales, villes, métropoles, pour que ce soit ces maires-là qui soient représentatifs de l'institution principale, de façon à ce qu'ils puissent avoir la double position, je dirais, d'élu institutionnel majeur et de représentant local.
Vive le cumul des mandats.
Oui, de porte-parole, je dirais, des associations et des habitants du quartier. Donc, là aussi, on arrive par des arrangements, on va dire, de type. Oui, mais alors après, leurs contradictions, et ça, c'est. Voilà. En tout cas, c'est une manière pour nous de permettre aussi à la démocratie participative, de proximité, de s'exprimer. Puis, il y a un troisième niveau, hein, qui est d'un autre registre, c'est le comité d'intérêt de quartier, qui est une spécificité marseillaise, qui existe depuis le début du siècle dernier, et qui est une forme d'association libre des habitants d'un quartier pour exprimer leur point de vue aux institutions représentatives du conseil municipal. Et là, on est dans un autre registre, parce qu'on est plus dans le registre participatif, mais avec quand même une antériorité institutionnelle qui fait que, comme toute institution de ce type qui dure, la notion de représentativité s'étiole et il y a des groupes de pression qui se retrouvent en petit nombre à porter la parole ou à s'auto-proclamer porte-parole d'une majorité silencieuse. Et par moments, ça crée des difficultés, ou en tout cas, ça brouille les pistes de la réalité de l'expression populaire. Donc là aussi, il faut savoir jouer avec ces. Enfin, jouer au composer avec cette situation. Et pour finir, on a un ensemble d'outils de participation et de communication qu'on est en train encore de renforcer. Dans un premier temps, on était plutôt sur la communication du type institutionnel, sur l'information grand public, on va dire, indépendamment des temps et des outils réglementaires, hein, de la concertation dans les publics, etc., qui sont imposés à toutes les opérations. Enfin, et puis on a un ensemble de dispositifs d'accompagnement, de type journée porte ouverte, par exemple, où là, tous les deux fois par an, pendant deux à trois jours, le personnel de l'établissement public remonte les manches et reçoit les habitants, les amène en bus visiter le quartier, Et donc, bon, c'est une manière, une forme d'association aussi qui est intéressante. Et pour finir, ben, c'est ce que j'ai évoqué avec le chemin de bande randonnée, par exemple. On est en train de réfléchir au développement de tout ce qui s'appelle aujourd'hui urbanisme tactique, urbanisme acupuncture urbaine, activation urbaine, enfin toutes ces choses-là, qui sont portées souvent par des
collectifs.
C'est une forme d'intervention urbaine, d'action urbaine, qui s'est emparée d'une temporalité qui était inexistante dans l'esprit des aménageurs, qui était celle de l'entre-deux, entre le moment où on décide de faire un projet et le moment où on engage sa réalisation. On génère des friches, c'est-à-dire on génère des espaces flottants qui n'ont plus de vocation initiale, qui n'ont pas encore la vocation future, et qui sont des champs d'interrogation pour les habitants, parce que, bon, par moment, exploité, occupé, etc., ou tout simplement anxiogène, parce que vide. Donc, il y a tout un champ de réflexion urbaine qui s'est paré au travers de collectifs, on va dire des démarches assez vives. M. Citron, qui était là ce matin, membre d'un collectif, qui s'appelle Plateau Urbain, ils ont été d'ailleurs, primés au palmarès des jeunes urbanistes de cette année. Plateau Urbain, c'est les grands voisins, c'est à Paris. C'est l'ancien hôpital qui a été, dans la période de vacances entre la libération du site par les médecins, par l'activité hospitalière, et sa transformation en éco-quartier, disons, 2-3 ans, qui a été pris en main par une structure de cette nature. Donc, Plateau Urbain, en l'occurrence, associé à Yesoukian et à une troisième structure, l'Aurore, qui fait de l'insertion par le travail, qui occupe l'espace. Et qui le mettent à disposition de start-up, de petites entreprises qui ne trouvent pas à s'implanter parce qu'en centre-ville de Paris, à des loyers compatibles avec leur capacité, mais qui ont besoin d'être à proximité d'un métro, de pouvoir se déplacer rapidement dans le centre immédiat de la ville. Donc eux mettent à disposition des locaux, les gèrent, créent toute une animation autour de ces petites collectivités temporaires, bien sûr. Avec une cantine, avec des bars, avec des jardins partagés, des foyers, enfin, tout ce que vous voulez. C'est assez. Enfin, je vous encourage à y aller. Hein, si vous ne laissez pas, c'est d'en faire Rochereau. C'est vraiment intéressant. C'est une expérience intéressante. Je vous cite ces collectifs. Vous avez Carton Plein à Saint-Étienne, par exemple, pareil, qui sont des collectifs de jeunes filles qui sont emparées d'un site laissé vacant par l'opération internationale stéphanoise et qui ont proposé d'occuper ce site dans ce temps intermédiaire pour faire de la médiation avec les habitants, pour aider les habitants à se positionner par rapport au projet, voire des habitants à s'exprimer sur le contenu même du projet de l'opération internationale, enrichissant encore une fois ce contenu. Donc c'est une nouvelle manière d'intervenir dans l'espace, dans des temporalités assez identifiées, avec des profils d'intervenants qui sont souvent d'abord des collectifs, et avec une grande diversité de profils de formation, depuis les architectes qui sont souvent présents d'ailleurs, avec des sociologues, des cinéastes, des vidéastes, et tout type de... Donc c'est assez vraiment intéressant. C'est quelque chose qu'il faut regarder de près.
Je ne voulais pas rajouter un peu. J'avais vu que tu...
Une question ?
Non, c'est vraiment pas la question.
Quel est l'enseignement des...
Non, c'est sur le bac pro, comment ça se traduit en termes de structuration foncière ?
Alors, sur par exemple le bac pro pour Lens avec Bouygues, on a initialement François Leclerc qui a établi un plan général sur ces 14 hectares, qui nous a permis d'ailleurs à établir aussi le bilan de ZAC, quand on a fait la ZAC et qui l'accompagne. Donc on a une première idée des constructibilités, des charges foncières, etc. Donc on a quand même pas mal, arpenté et élaboré le périmètre, y compris en termes de réseau et autres. Bon. On a une petite visibilité, on veut en faire un éco-quartier de centre-ville, on a cette ambition vraiment de travailler sur la performance globale de cette opération. On y agrège le petit village qui est à proximité, dont je vous parlais, avec ses 3000 habitants, parce qu'à l'intérieur, on a fait l'acquisition d'entrepôts industriels de très grande qualité, qui sont plus marque patrimoniale forte de l'identité forte du quartier, pour justement permettre à des activités du type Makers, du type Fab Lab et autres Zakouski contemporains, de venir s'installer pour réintégrer de l'activité dans ces secteurs délaissés, et de redonner d'animation. Donc cet éco-quartier, il considère ici que c'est que ce village, et on va travailler justement sur un développement mutualisé de parties qui sont en périmètre de restauration du quartier politique de la ville, et hors périmètre ici c'est la question. Ensuite, une fois qu'on a ce maillage qui est fait, on a un opérateur désigne son propre urbaniste qui va ensuite faire la médiation entre le projet de François Leclerc, le projet de l'aménageur, et les intentions, je dirais, de l'opérateur immobilier qui est Bouygues, de son groupement, avec ses propres contraintes de phasage opérationnel, d'adéquation au marché, de programmation, etc., tout en encadrant quand même l'essentiel de l'ensemble de ces données. C'est-à-dire le programme, c'est pas vous qui le faites. Nous qui donnons les grandes orientations avec des marges d'ajustement rendues possibles pour Bouygues en fonction des problématiques de marché. Il y en a de plus. Et puis donc, Bouygues ensuite va travailler avec nous sur une identification de la stratégie de déploiement du projet, donc qui va nous permettre d'orienter notre action foncière par rapport à ce déploiement. Et ensuite, progressivement, on va avancer en entonnoir jusqu'au lancement des premières opérations. De construction. Sachant que pour les architectes, on a instauré, mais ça c'est une procédure interne que j'ai réussi à caler, c'était dur, elle existe, une procédure qui garantit qu'il y ait un architecte par tranche de 10 000 habitants au minimum, de 10 000 mètres carrés au minimum. Donc là on a 250 000 mètres carrés, il y aura au moins 25 architectes.
Pas de macro-architectes.
Donc, et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a l'expérience d'Allard, l'idée c'est de faire travailler les architectes, plusieurs architectes sur un même niveau, dans un esprit d'atelier. C'est-à-dire de ne pas chercher à qualifier, à trop dessiner un dirigiste sur les modalités d'action de chacun, mais plutôt de créer un état d'esprit et un échange stimulant pour l'ensemble des opérateurs et dans leur échange avec l'opérateur.
Parce qu'on a une architecture fonctionnelle dont vous parlez tout à l'heure. fraîcheur des bâtiments, éclairage naturel, etc. Il ne faut pas non plus qu'une ville, ce soit une succession d'objets architecturaux disparates. Il faut que les gens aussi aient une envie de lire, qu'ils puissent lire la ville à travers la situation dans la rue. Il ne faut pas qu'ils passent d'une ville à une autre.
Et ça se joue beaucoup à l'échelle visuelle, il faut prier, sur les chaussées. Donc il fait un gros travail sur toute la séquence rez-de-chaussée entre-sol, on va dire, à la fois au plan architectural, mais aussi au plan de l'activité et de l'animation de ces lieux.
Juste à la fin de l'opération, qui est propriétaire du sol?
Pour les îlots, ce sont les ASN. Et puis nous avons maillé tout l'îlot de 14 hectares avec des emplacements réservés, des espaces publics. Donc là, on aura des espaces publics classiques, j'ai
d'accord,
la puissance publique.
On remet en gestion. Ce que tu dis, c'est que dès qu'on construit un espace public, on le remet nous en gestion in fine,
d'accord,
à la tutelle, en l'occurrence la métropole aujourd'hui, MPM à Paris.
D'accord. Donc c'est pas Bouygues FH qui assure la gestion.
Parmi les sujets justement qu'on se pose, c'est ceux de la pérennité. On parlait tout à l'heure d'intérêt public et de répartition de charges entre public et privé. Quand on dit par exemple que l'animation d'espace est bien due au public, au privé, que la qualité d'espace elle porte autant sur ce que je montrais sur le parc habité, sur la végétalisation de l'espace public, que sur la capacité de l'espace privé à être fortement végétalisé pour bénéficier au paysage urbain dans son ensemble, c'est évident que si le privé ne joue pas le jeu et qu'il laisse prôner ses plantations, enfin, ses cousins bidaux, le paysage perçu depuis la rue sera quand même passablement dégradé. Donc, une des questions qu'on pose aujourd'hui, y compris pour les services qu'on a en place, c'est quels sont les verrous qu'on peut essayer, quelles sont les charges qu'on peut transmettre aux ASL pour éviter que la première assemblée générale de l'ASL ne consiste à sabrer tout ce qui lui paraît excessif en termes de charges, et donc on déshabille totalement tout ce qu'on a mis très longtemps.
Association syndicale
des mineurs.
Le syndicat de copropriété, c'est la copro. Et ça, c'est un sujet juridique extrêmement sensible. On peut contourner sur ce genre d'opération, et ça on l'a vécu dans d'autres situations, parce qu'à partir du moment où le promoteur s'engage sur un niveau comme Allard, il s'engage pour au moins 10 ans. C'est l'échelle de temps pour développer commercialement l'opération. Ça veut dire qu'entre le moment où il livre le premier bâtiment et le moment où il livre le dernier, il peut rester majoritaire dans la SN,
d'accord,
et donc garantir pendant ce temps-là la pérennisation de tous les dispositifs mis en place. Après, quand il part, il arrive, s'il arrive, mais
c'est là, ce qui se passe,
ça permet au moins, je dirais, aux habitants d'apprécier les bénéfices éléments-là et de relativiser les coûts de charges éventuelles qui sont.
Effectivement, pour compléter, c'est exactement ce qui se passe sur là. On a un système de répartition des poids qui est réparti chez chaque poids, chacun a un certain poids dans l'ESM. Et de fait, l'opérateur immobilier, au début de l'opération, est ultra majoritaire. Et donc, il met en place un partenariat avec l'ESM. Mais à tout ce qu'il veut. C'est grâce à ça qu'on peut garantir la pérennité au moins de bien lancer l'opération. Et ensuite, c'est dans la rédaction des statuts qu'on ne va pas bloquer, mais en quelque sorte un peu contraindre ou non inciter les changements par des modes de vote à l'unanimité ou des choses comme ça.
Alors Dominique a un plan conclu, puis il y a une ou deux annonces techniques, je crois, qu'il faut faire pour demain matin pour préciser.
Moi, j'ai deux questions. La première, c'est quels sont les critères de sélection de vos partenaires privés? Parce que finalement, j'imagine quand même que vous le connaissez. C'est dur d'être un partenaire privé, y compris à l'IELAT. Et deuxième question donc à vous en l'occurrence, en quoi finalement pour vous, dans votre mission, un projet de ce type-là est différent d'un projet standard, classique de promotion?
Première question, c'était
les critères de sélection
des partenaires. Alors, plusieurs manières de sélectionner les partenaires. Une manière on va dire, totalement obscur, qui est la sélection des phages. En fait, les phages, c'est intéressant parce que les phages ont une polarité à terme, qui s'appelle phosphore. Et un des premiers sites qu'ils ont activé pour créer justement cette dynamique interne et ce travail collaboratif entre les différentes directions, était le site de l'extension avant même que l'extension soit décidée. Donc, c'est en 2005 ou 2006. Des phages, l'ensemble des directions des phages, a débarqué sur Marseille, a sauté sur l'extension et a fait un projet, a fait une proposition avec toute la dimension extrêmement croisonnante de bâtiments énergétiques, d'occupation, de services, de transport, de mobilité. Donc, quand on crée l'extension, on se dit tiens, on a un projet pilote à lancer, comment on choisit ? Évidemment que si on lance un appel à manifestation d'intérêt classique, on aurait eu des tas de réponses, mais pas forcément celle qu'on avait souhaité, parce que à cette époque-là, en 2017, on avait un engagement des groupements, des groupes, qui était relativement faible en matière de développement durable, à l'exception du phage, qui était le seul à l'époque à s'être engagé avec Phosphore. Donc on s'est dit, ils sont engagés, autant on peut les retenir comme partenaire, sachant que c'était quand même un projet à risque à l'époque.
C'est
particulièrement.
Donc c'est quand même un processus de vrai.
Celui-là, pour l'appel à manifestation d'intérêt pour la ligne XXL, par exemple, c'était une consultation. C'était une consultation ouverte sur
notre. Allez, s'il vous plaît, arrêtez ce brouhaha dans le fond. Parce que là, on est en train d'essayer d'écouter ce qu'il dit. Merci.
Donc avec notre méthodologique et audition. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a fourni un cahier des charges assez conséquent qui a noyé les opérateurs sous l'information et qui leur a imposé de répondre à la consultation dans un registre qui n'était absolument pas le leur. Un opérateur, habituellement, il faut un architecte pour faire de l'image la plus irréaliste possible, la plus vendeuse politiquement, et il espère que ça va faire le badin. Et derrière, il y a juste avec quelques dispositions techniques pour dire que tout va bien, et financières, pour dire qu'on paiera ce qu'il faut. À partir du moment où vous enlevez l'architecte et la représentation qui veulent permettre d'obtenir la plupart du temps l'adhésion des politiques, enfin des gens qui sont les moins rompus à l'exercice dans son projet urbain, en dehors de l'image, il se retrouve dans une vraie difficulté. D'abord, l'expression. En plus, compte tenu de la taille de l'opération, il y avait forcément des groupes. Ce n'était que des groupements qui pouvaient répondre. Et ça nécessitait de fait aux groupements de s'entendre déjà. Un, sur les objectifs. Deux, sur les modalités de réponse d'opérateurs qui sont rarement en groupement. Donc on a mis toutes les difficultés possibles dans la réponse, même si elles se réduisaient à 10 pages de notre méthodologie. Et ça a été assez intéressant, vraiment. Et d'ailleurs, on a tout de suite vu au moment de l'audition, les équipes qui avaient fait un vrai travail collaboratif pendant le temps de l'élaboration de la candidature, de celles qui s'étaient contentées d'agréger leur savoir-faire respectif en espérant que ça ferait le bada et qu'on arriverait à faire la farce, je dirais, au moment de la présentation. Et là, le seul qui est sorti du chapeau de façon assez évidente, c'était ce groupe Building City. Donc là, c'était une forme qu'on inaugurait. Hein. Sinon, plus traditionnellement, les îlots que je vous ai montrés à la suite, là, qui sont plutôt sur le parc habité, c'est des consultations qu'on fait sous forme d'appel à projet avec projet architectural. Donc là, on demande à ce qu'il y ait au moins 3 architectes par îlot, avec une jeune équipe, de façon à aider aussi le milieu local à monter en compétences et en référence. Et puis, avec le bureau d'études qualifié et compagnie, et ensuite, on va un projet avec esquisse, image, enfin, chose plus traditionnelle. Mais à chaque fois, avec toujours double critère, le prix, en général, on prend le prix, donc on limite ce critère, et la qualité générale du projet, compréhension des enjeux, compréhension des enjeux de développement durable, notamment, d'un peu architecturaux, qualité d'usage, service et autres. Par exemple, la conciergerie qu'on a évoquée sur l'art, on disait qu'on avait immédiatement bénéficié toutes ces expériences qu'on avait réinjectées dans les consultations à venir. On a imposé les consultations qu'on a lancées cette idée de conciergerie. Aujourd'hui, la conciergerie est en train de se mettre en œuvre. On est parti avec la Poste pour voir ce qui a été fait à Bordeaux. On a été voir les conciergeries à Nantes, enfin on a balisé un peu tout ça. Et aujourd'hui, on est en train de changer d'échelle. C'est-à-dire que l'opérateur vous a dit, moi, la conciergerie, je l'ai fait pour mon IO. Et on s'aperçoit que, comme on a réussi à faire percoler cette idée dans tous les IO et montrer à tous les opérateurs l'intérêt de faire une conciergerie, ils sont en train de se demander s'ils n'ont pas un intérêt à mutualiser ces efforts pour créer une conciergerie de quartier, leur permettant, justement, du fait de ce changement d'échelle, d'accéder à un autre niveau beaucoup plus ambitieux de service. Et donc avec des mutualisations inférieures, donc en réduisant de fait les charges pour les habitants. Donc voilà, on est en permanence à cette
phénomène. Et alors, pour une fois,
donc la question, c'était qu'est-ce qui change d'une opération classique? Alors, il faudrait définir ce que c'est qu'une opération classique. Je vais essayer de le faire modestement. Un promoteur classique qui développe une opération, il a un terrain qui est aménagé par un aménageur, il vient entre guillemets se plugger sur ses réseaux, il développe son projet, c'est la plupart du temps du logement, et il les commercialise, il vend, il livre. Je pense qu'il y a deux éléments de réponse forts, c'est d'abord la maîtrise du montage de l'aménagement jusqu'à la construction, qui change en fait d'une opération classique, parce que comme je le disais tout à l'heure, on est et aménageur, et promoteur, et constructeur, donc ça c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est ces innovations. C'est vraiment tout ce qu'on va essayer de mettre en place avec l'aide aussi de Romed, on va essayer de tenter d'avoir des nouvelles idées, on va essayer de mettre des nouveaux matériaux, des nouvelles choses, et essayer de recréer un lien social à l'intérieur d'un quartier, ce qui peut changer aussi une opération classique. Une opération classique, bien s'implanter dans un quartier qui est moins déjà développé. Nous ici, là, le quartier est très prospectif, oui, on peut utiliser ce mot, mais voilà, donc ça aussi ça change, ça pourrait être aussi un troisième élément de réponse, c'est la recréation d'un lien social grâce au redéveloppement d'une économie de quartier, grâce à l'instauration de la conciergerie et toutes les autres innovations.
Sauf que vous mettez des grilles. Sauf que vous mettez des grilles. Alors, le lien social.
Physiquement, on met des grilles, oui, mais qui seront ouvertes la journée.
Oui.
Non, c'est que le lien social, on va d'abord essayer de le recréer à l'intérieur de l'IO.
À l'intérieur des grilles.
À l'intérieur de l'IO, à l'intérieur des grilles. Par la suite, avec XXL qui va se développer, la ville va se développer, et on essaiera, au sein de la SL, puisqu'on va y rester, de retirer le stigmate du petit village gaulois.
Mais j'ai l'impression que c'est une fatalité aujourd'hui chez les...
Non, mais demain, quand les gens font la ville, tu verras d'où on parle, tu comprendras pourquoi la question de la grille aussi. C'est pas juste un îlot au milieu d'autres îlots, c'est un îlot au milieu de moins que pas grand-chose.
Oui, mais tu vas à Jussieu, ils ont fait le principe de la rénovation de Jussieu, du campus de Jussieu, c'est d'ouvrir l'université sur la ville. Aujourd'hui, avec les Pirates, ils ont mis des grilles partout. Le campus n'est pas ouvert sur la ville. C'est une espèce de fatalité urbaine.
On va,
ce n'est pas que dans les quartiers difficiles.
Tu gardes ça pour demain après-midi
On y sera sur site.
Sur les éléments de... Après la visite du site, je pense que ça vaut le coup. Mais c'est vrai que, globalement, le processus de résidentialisation, c'est ce qu'on appelle pieusement la résidentialisation, on le voit à peu près partout. Non, l'autre question que je voulais vous poser en lien avec celle-ci, puis après on arrête, c'est par rapport à ce qui a été dit ce matin par Paul Citron, qui disait que finalement, le macro-lot, c'était aussi une façon pour les promoteurs, etc., de retrouver une certaine rentabilité par... économie d'échelle dans un contexte de surcoût de construction lié à justement à la réglementation, à l'obligation environnementale, etc., etc. Est-ce que est-ce que vous vérifiez ça, l'économie d'échelle sur des opérations de taille supérieure par rapport à une opération plus réduite?
Oui, forcément, et en fait, donc on le vérifie au jour le jour, et grâce à la rationalité de projet qu'on essaie de trouver dans les modes constructifs et dans les prestations qu'on essaie de proposer, parce qu'on ne va pas proposer une ville building plutôt une ville qui va essayer d'être innovante sans faire exploser le coût de construction. Et ça nous permet en fait de développer un marché, parce que le marché n'existe pas du tout là, de développer un marché en fait, qui est très 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 attractif, parce qu'actuellement on est à 3000 euros du mètre carré pour du logement, pour des barrières, ce qui est assez inédit en fait à Marseille, pour faire le marché.
Je pense qu'il y a aussi une tentation caricaturale qu'on retrouve, quelqu'un qui était fait par Jacques Lucan qui raconte bien cette histoire-là, qui laisse à penser qu'en changeant d'échelle, les promoteurs vont se gagner. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à une situation où intervenir en renouvellement urbain, c'est forcément intervenir sur un foncier privé. Oui, parce que polluer la plupart du temps, et ce n'est pas des friches militaires, c'est des friches industrielles, dans tous les cas, il y a de la pollution. La pollution, la traiter uniquement enfin, par petits bouts, on n'y arrive pas. Donc déjà, on voit que la question de l'échelle ou du traitement d'un certain nombre de problématiques liées à la seule situation de renouvellement urbain induit une échelle d'intervention qui soit relativement importante. Quand on y ajoute toutes ces questions de développement de sites pionniers, de massification que j'ai évoqué tout à l'heure, y compris pour garantir un environnement social minimum pour les nouveaux arrivants, là aussi, on a un grand intérêt à avoir une massification des implantations. Et ça, si on traduit ça en petits morceaux d'opérations qu'on doit cumuler, coordonner, etc., on n'y arrive jamais. Jamais. Donc, il y a aussi...
Moi, j'ai jamais parlé de gavage de...
Non, mais je pousse assez loin, parce que c'est aussi la tendance, je dirais, du discours sous-jacent. Et je pense que même si, effectivement, quelque part, les promoteurs s'y retrouvent, il faut accompagner d'abord, ce sont les partenaires qui sont indispensables, d'une part, donc là, il faut aussi les accompagner, hein. Il faut aussi accompagner ce changement de paradigme qui fait que là, on a besoin de construire toujours plus rapidement, des logements toujours en plus grand nombre, dans des sites qui sont en reconversion. Quand on fait cette équation-là, on n'a pas 36 manières d'y répondre. L'antithèse, c'est ce qui a été présenté tout à l'heure par mon collègue sur l'île, mon pasteur, où là, on s'attaque à du renouvellement urbain à grande échelle. J'ai monté le projet en 2005 de mon pasteur. On est en 2016. Et il commence à sortir de terre. Il y a eu 10 ans d'action foncière pour libérer, reloger la cage d'escalier, etc., etc. Et ça, c'est possible parce qu'on est une opération d'intérêt national et puis, encore une fois, qu'on a le soutien de tous nos partenaires. On ne peut pas le reconduire dans des programmes neufs en site de renouvellement classique. On est obligé aussi de prendre en compte la notion de temporalité des données.
Merci beaucoup.